Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. On connaissait le succès des séries télé produites en Israël. Ces programmes concoctés dans les studios de Tel Aviv ont connu une vraie réussite ces dernières années, notamment aux États-Unis qui en dupliquent les formats. Mais voici qu'apparaissent les séries turques. Cette fois, le succès est lié aux scénarios eux-mêmes qui séduisent bien au-delà du seul Moyen-Orient. Confirmation avec Amandine Kassi de la société Médiamétrie Internationale. Malgré les attentats qui ont émaillé ces derniers jours de campagne, l'élection présidentielle en Égypte se tient lundi et mardi. Elle oppose le maréchal Al-Sisi au candidat de la gauche Hamdine Sabahi. Notre reporter Nicolas Falaise a sillonné les routes égyptiennes du Caire à Alexandrie. Il nous en dira plus sur l'état d'esprit des électeurs égyptiens. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Sizi Abdurrahman Çavuş'un koğuşuna yerleştireceğim.
Haber var mı onda?
Yok, maalesef. Firari. Ama jandarma arıyor.
À l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, la télévision fait toujours recette partout dans le monde. L'an dernier, un téléspectateur a passé en moyenne 3h15 chaque jour devant son écran, plat ou cathodique. C'est le résultat d'une étude de la société Eurodata TV Worldwide, dont vous êtes la directrice des études internationales. Bonjour Amandine Kassi.
Bonjour.
Quel est le tiercé gagnant de ce que regardent les téléspectateurs à travers le monde ?
Alors, ils regardent avant tout beaucoup de fiction. Enfin, en 2013, la fiction a repris le devant de la scène dans les palmarès internationaux, gagnant 4 points supplémentaires par rapport à 2012. Donc voilà, on voit vraiment un renouveau de la fiction et ça reflète vraiment aussi un renouveau du marché de la fiction à l'international. Donc évidemment, on regarde beaucoup encore de séries américaines, mais vraiment ce qui prend le dessus, ce sont les séries locales et les alternatives aux séries américaines.
Alors, les fictions, celles qui marchent le mieux, ce sont les films, j'imagine, mais peut-être aussi les séries, les sitcoms, qu'est-ce qui vient en priorité ?
Alors, ce qui marche le mieux, ce sont avant tout les séries, dans les palmarès internationaux. Donc, si on prend, par exemple, les 10 meilleures audiences, tout genre confondu, hors sport, dans 70 territoires, c'est ce que nous avons fait. Les fictions, au sens large, représentent 42%. Et plus de 60% sont des séries. Donc ce sont vraiment les séries, les sitcoms, les telenovelas qui fonctionnent très bien. Les films représentent 10-11% à peine.
Alors, les séries américaines, bien entendu, on les connaît. Hein, mais vous disiez à l'instant qu'il y avait aussi des productions locales qui marchaient très bien. Lesquelles ?
En fait, l'Europe est en train d'exploser sur la scène internationale, mais l'Europe au sens très large. Hein. Donc effectivement, on a le Royaume-Uni qui marche très très bien à l'international, soit dans leur version originale, soit dans leur version adaptée. La Scandinavie. La France, évidemment, fait partie de ces pays qui exportent de plus en plus de séries. Et l'un des pays qui fonctionne le mieux depuis maintenant plusieurs années, c'est la Turquie. La Turquie qui, d'abord, avait un bassin d'audience qui était très Moyen-Orient et qui, depuis plusieurs années, engrange vraiment des audiences très fortes avec ses séries en Europe de l'Est. Par exemple, les séries turques arrivent dans le haut du classement en Bosnie, en Croatie. Enfin voilà, vraiment les pays d'Europe de l'Est plébiscitent les séries turques. Et cet intérêt en Europe de l'Est pour les séries turques a suscité l'intérêt pour les acheteurs internationaux. Donc, des séries turques voyagent à la fois dans leur version originale, mais aussi dans leur version adaptée à l'international.
Qu'est-ce qui explique cette réussite ? Est-ce que c'est des moyens techniques qui sont plus importants ? Est-ce que c'est des sujets traités ? C'est quoi ?
C'est un ensemble de choses. D'abord, en fait, le fait que la fiction locale, et ça c'est valable pour tous les pays, marche très bien, à un moment donné, justement, suscite l'intérêt des acheteurs internationaux. Puisque pour aller sur le marché international, il faut d'abord avoir une bonne histoire, un bon concept. Et si on arrive avec ce bon concept à séduire le téléspectateur local, il y a de fortes chances qu'on arrive à séduire une audience internationale.
Donc les Turcs savent très bien écrire les histoires.
Ils savent plutôt bien écrire les histoires. D'abord, en fait, ils ont vraiment développé très fortement leur production locale parce que les séries américaines ne sont pas diffusées sur les grandes chaînes nationales. Elles sont diffusées sur des petites chaînes du Cap qui font, par exemple, Desperate Housewives a été diffusée sur une chaîne en Turquie, dans sa version originale, qui faisait moins de 1% de part d'audience. Alors que la Turquie a adapté la série américaine pour une grande chaîne, et là a eu beaucoup de succès. Donc fort de cette création locale et du savoir-faire local, ils ont commencé finalement à exporter aussi leur série locale vers l'international, donc d'abord Moyen-Orient, puis Europe de l'Est. Et par exemple, une série comme Magnificent Century se retrouve dans les palmarès tout genre confondu de 7 territoires aujourd'hui, donc tout genre confondu. On ne parle pas uniquement de fiction.
Alors vous parlez de Magnificent Century, qui est une série télé basée sur l'histoire, c'est l'histoire de Suleiman le Magnifique. Hein. Mm-hmm. Est-ce que ce sont ces thèmes-là, des thèmes historiques qui sont généralement mis en avant par la production turque?
Alors Magnificent Century est vraiment emblématique des fresques historiques, mais il y a aussi beaucoup de sagas familiales, avec par exemple Time Goes By, donc qui est à la fois historique puisqu'elle est, mais elle est située dans un temps un peu plus moderne, puisque c'est dans les années 50-60, et qui est une saga familiale. Il y a beaucoup de sagas familiales, y compris Fatma Ghul, par exemple. Mais il y a aussi des thèmes un peu plus orienté sur l'action et les thrillers, comme par exemple la série The End, qui est une série qui met en scène une femme qui se retrouve veuve, qui est donc persuadée que son mari est mort dans un accident d'avion et qui petit à petit découvre que son mari n'est jamais monté dans cet avion. Donc ça, c'est vraiment un thriller. Cette série a été vendue dans 35 territoires dans sa version originale. Netflix, dont on parle beaucoup, a acheté la version originale pour le marché anglais et pour le marché suédois. Et une adaptation de la série The End devrait voir le jour aux États-Unis. Donc ça sera la première série turque adaptée pour le marché américain. En Russie, une adaptation est en cours.
Pour aller sur le marché international, il faut quand même que les sujets qui sont développés par les séries soient des sujets universels, quelque sorte.
La famille est un sujet universel. À partir du moment où l'histoire est bien ficelée, c'est aussi l'apport des séries américaines par le passé, et c'est ce que les productions européennes, les productions turques, les productions israéliennes ont su intégrer, c'est aussi de l'ancrer dans le réel. Vraiment le réalisme et voir l'actualité, c'est quelque chose qui vient imprégner les séries d'aujourd'hui et les séries qui fonctionnent plutôt très bien.
Cette production actuelle turque, elle est en pleine expansion?
Oui, c'est vraiment en pleine expansion, et ce depuis plusieurs années déjà, mais 2013 a vraiment marqué un tournant. Et le marché international a vraiment pris conscience de la puissance des séries turques, probablement en 2013.
Merci Amandine Kassi, directrice du pôle études internationales d'Eurodata TV Worldwide.
Merci à vous.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous sommes à 2 jours de l'élection présidentielle en Égypte. Vous savez que ce scrutin a lieu lundi et mardi et qu'il n'y aura qu'un seul tour puisqu'il n'y a que 2 candidats. Je vous rappelle que les Égyptiens de l'étranger ont commencé à voter dès la semaine dernière. Nous sommes en ligne avec Nicolas Falaise, grand reporter au service international de RFI, qui suit pour nous cette élection et qui a sillonné le pays du Caire à Alexandrie. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors Nicolas, quelle est l'ambiance générale dans les rues égyptiennes? Est-ce que la campagne électorale se voit?
Oui, ce qui saute aux yeux, c'est l'omniprésence du visage de l'un des 2 candidats, Abdel Fattah al-Sissi, sur des milliers d'affiches, parfois immenses. On peut le voir en costume civil, il a quitté l'armée il y a quelques semaines. Un candidat souriant avec un slogan simple, Tahia Masr, vive l'Égypte. Sur l'affiche du candidat Sissi, il y a aussi une étoile verte, elle figurera sur les bulletins de vote, un symbole qui doit aider les Égyptiens qui ne savent pas lire à ne pas se tromper de bulletin dans un pays où le taux d'illettrisme reste assez élevé.
Alors voilà pour les affiches de al-Sissi, mais il y a un rival, un autre candidat, est-ce qu'on voit des affiches également?
Alors cet autre candidat s'appelle Hamdine Sabahi, c'est un Assyrien de gauche et il faut bien chercher pour trouver ces affiches dans les rues du Caire. La disproportion est assez frappante entre les 2 candidats qui ne disposent visiblement pas des mêmes moyens. Alors en revanche, à Alexandrie, la 2e ville du pays, le déséquilibre entre les affiches Sissi et les affiches Sabahi est beaucoup moins frappant. Les affiches à voter pour Hamdine Sabahi font ici partie du paysage, dans une ville où il avait réalisé un score élevé en 2012. Et rappelons qu'il était arrivé 3e lors de cette précédente présidentielle remportée à l'époque par l'islamiste Mohamed Morsi.
Alors Nicolas, on dit que la victoire du maréchal Sissi, de l'ex-maréchal Sissi, est inéluctable. Qu'en pense vraiment l'homme de la rue?
Alors, quelle que soit l'opinion des Égyptiens qu'on rencontre ici, ils estiment effectivement qu'il y a assez peu de suspense. Hein. Les partisans d'Abd el-Fattah al-Sissi parlent déjà de la préélection, des défis qui l'attendent. Ceux qui soutiennent l'autre candidat, Hamdine Sabahi, eux, ne se font guère d'illusions et ils affirment vouloir défendre dans les urnes les idéaux de la révolution égyptienne de 2011. Et puis, il y a aussi la masse de tous ceux qui ne voteront pas, soit parce qu'ils se sentent proches des frères musulmans, une organisation désormais considérée comme terroriste en Égypte. Et puis il y a aussi tous ceux qui ne voteront pas parce qu'ils ne se retrouvaient ni dans la période Moubarak, ni dans la période Morsi, et qui ne se retrouvent pas dans cette candidature d'Abd el-Fattah al-Sissi. C'est par exemple le cas d'un jeune révolutionnaire que j'ai pu rencontrer à Alexandrie et qui rejette ce qu'il considère comme un pouvoir militaire qui se profile avec la victoire annoncée d'Abd el-Fattah al-Sissi.
Finalement, Nicolas, quelles sont les attentes des Égyptiens de cette élection ?
Alors, sécurité, stabilité, retour des touristes en Égypte pour faire tourner l'économie, fin des coupures d'électricité, car le pays est confronté à une préoccupante crise énergétique, beaucoup d'attentes et assez peu d'éléments de programme de la part des deux candidats. Le tableau est assez sombre, hein, avec une croissance d'un peu plus de 2% contre 5% en 2010, un chômage à 24%, une inflation proche de 10% et un très fort endettement. Aujourd'hui, l'Égypte est sous perfusion des pays du Golfe qui se sont engagés à verser une douzaine de milliards de dollars.
Merci Nicolas.
À bientôt Eric, bonne journée.
Nicolas Falaise, grand reporter au service international de RFI. On suivra avec attention vos reportages dans les journaux de la Radio Mondiale jusqu'à mercredi, lendemain du vote. Ahmad Al-Agar a de qui tenir. Son grand-père était un grand professeur de chant en Égypte, son oncle Ahmad Senior est un compositeur reconnu et son père Ali, un chanteur très populaire dans les années 80 et 90 et encore aujourd'hui. Voici donc Ahmad Junior en duo avec Laila Mostafa dans ce morceau Crazy.
Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, la détérioration de la situation en Libye fait la une de la plupart des journaux arabes, des journaux notamment chez les pays voisins de la Libye qui ne cachent pas leurs préoccupations.
Oui, la préoccupation de voir la Libye passer de l'insécurité et du désordre actuel à un État failli en pleine guerre civile. Alors l'analyse de la rébellion du général Haftar, l'ex-commandant en chef de l'armée de terre, diffère selon les éditorialistes. Alors certains y voient une tentative de coup d'État, d'autres un soulèvement salutaire. Un général qui semble en tous les cas être bien vu par les journaux du Caire et de Riyad, auxquels il a accordé des interviews, et très mal perçu par les journaux du Qatar, qui voient en lui un contre-révolutionnaire.
Le pape François, en Palestine et en Israël, est à la une de la presse israélienne, Michel Paul.
Une visite particulièrement courte, mais qui fait beaucoup parler d'elle. Arrivée demain donc du Saint-Père à Ramallah et à Jérusalem, en tout 27 heures pour la partie israélienne. Selon Haaretz, pour le Vatican, le but principal est d'éviter tout incident diplomatique côté palestinien et aussi chez les Israéliens. Le journal pose une question. Pourquoi le souverain pontife a-t-il choisi une visite aussi difficile pour son premier voyage à l'étranger? Et la réponse d'Aretz, tout simplement parce qu'il n'avait pas le choix. Et l'un des arguments qui est invoqué, c'est que le président Shimon Peres a énormément insisté pour que la visite se déroule avant la fin de son septennat, en juillet prochain. Un chroniqueur le souligne en tout cas, la visite du pape François est principalement d'ordre religieux et non politique, même si, du point de vue israélien, il y aura deux temps forts, la visite à Yad Vashem, le mémorial de la Shoah, et aussi, et peut-être même surtout, le dépôt d'une gerbe sur la tombe de Théodore Herzl, le fondateur du sionisme. En attendant, comme le fait remarquer un quotidien, cette visite sera un véritable calvaire pour les Yérusalemitains qui ne pourront pratiquement pas circuler dans leur ville.
Michel, vous y faisiez allusion à l'instant. Vos journaux s'intéressent à la succession de Shimon Peres à la présidence d'Israël.
La saga de la course à la présidence se poursuit donc, du jamais vu, font remarquer les commentateurs. La date de l'élection a été annoncée. Le 10 juin, les députés de la Knesset choisiront le successeur de Shimon Peres. C'est une mini-défaite pour Benjamin Netanyahou qui voulait repousser le scrutin, principalement pour empêcher l'élection du candidat de son propre parti, Ruby Rivlin. Une tentative de conciliation est en cours, soulignent plusieurs quotidiens.
Alexandre Bouchanti, après la Libye dont nous parlions tout à l'heure, la Syrie continue elle aussi d'occuper une large place dans les journaux arabes, qui tente de faire un état des lieux de la situation sur le terrain.
Oui, et beaucoup d'éditorialistes estiment que même si les forces fidèles à Bachar el-Assad ont pour l'instant le dessus, ces progrès sont purement ponctuels selon eux. Alors des progrès dus à la désunion de la rébellion et à un Occident, surtout les États-Unis, qui n'a pas tenu ses promesses. Quoi qu'il en soit, beaucoup de journaux arabes estiment que le conflit ne pourra pas se régler par les armes et qu'il faudra tôt et probablement très tard revenir à la table des négociations.
Et puis Alexandre, l'élection présidentielle en Égypte qui se tient lundi et mardi fait-elle aussi la une des journaux arabes?
Oui, et des journaux qui rappellent qu'à partir de 0h samedi, la campagne électorale a officiellement pris fin. Une campagne où les deux adversaires, le gauchiste Hamdi Sabahi et l'ex-maréchal Abdel Fattah el-Sissi, ont accompli leur sprint final devant des chaînes de télévision privées qui auront totalement détrôné la télévision publique durant cette campagne présidentielle. Alors de nombreux journaux reviennent sur les enseignements du vote des expatriés égyptiens qui s'est terminé mardi. Un vrai tsunami en faveur du maréchal Sissi qui a remporté 95% des voix de 318 000 votants. Plus important encore, le taux de participation inégalé de la part des expatriés, 47% des inscrits. Une participation record qui signifie que les appels au boycott lancés par les frères musulmans n'ont pas été suivis.
Michel Paul, le rachat du laitier Nova par une compagnie chinoise fait grand bruit en Israël.
Qui a piqué mon fromage? Demande Yediot Aharonot. Il s'agit de l'achat de la plus grande compagnie israélienne de produits laitiers Tnuva par une société chinoise. Si un commentateur parle de la voie lactée qui unit désormais Israël et la Chine, plusieurs chroniqueurs font remarquer, eux, que désormais une entreprise d'importance stratégique est sous contrôle étranger d'un pays qui vote le plus souvent à l'ONU avec les ennemis d'Israël. Une transaction géante qui, fait remarquer un journaliste économique, ne rapporte pas un sou à Israël.
À la une également, Michel, des questions de gros sous toujours.
Oui, de très gros sous, et c'est un peu un marronnier. Une fois de plus, il est question de coupes sombres dans le budget de la défense nationale israélienne pour équilibrer le déficit budgétaire général. C'est une véritable guerre que se mènent les dirigeants de Tzal et les responsables du trésor israélien, avec un résultat immédiat, Eric, l'arrêt de l'entraînement des réservistes.
Allez, on conclut cette revue de presse régionale, Michel Paul, avec votre photo du jour.
Ce sont des photos tout en jaune, celles des basketteurs de Maccabi Tel Aviv, champions d'Europe.
Oui, victoire en Espagne sur le Real de Madrid, 98 à 86, bravo à eux. À noter qu'après cette victoire, plus de 17 500 tweets antisémites ont été référencés en Espagne et du coup, une action judiciaire collective a été engagée contre leurs auteurs, quasiment tous identifiés. Merci messieurs, merci également à François Porcheron qui a réalisé cette émission, émission que vous pouvez retrouver sur le site www.rfi.fr à la rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.